Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue à vous dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et comme l'évangile du jour va parler d'un évangile, je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous reparler un peu de la Bible, qui reste quand même l'ouvrage le plus lu de l'histoire de l'humanité, quelques clés pour vous y retrouver. Si jamais vous deviez présenter la Bible en 3 minutes, par quoi est-ce que vous commenceriez ? Bah, vous commenceriez probablement par dire que Bible, c'est une bibliothèque, c'est le même mot, et que là où vous croyez qu'il y a un seul livre, il y en a en fait plus de 70. Alors il y en a des gros, il y en a des petits, mais ils ont tous été mis en un seul volume parce que la Bible, c'était la bibliothèque du monde ancien. C'était les livres, les juifs pensaient que c'était ces seuls livres-là qui méritaient d'être passés de génération en génération et ils les ont compilés en un seul livre qu'on appelle la Bible. À l'intérieur, ces 70 livres sont classés par... ordre chronologique. Alors par ordre chronologique, c'est-à-dire c'est pas le plus ancien texte rédigé au début et le plus nouveau à la fin, c'est du début du monde jusqu'à la fin du monde et en fait ça vous raconte l'histoire du salut. La création, Adam, les patriarches, etc. On distingue généralement 3 temps, le passé dont je vous ai parlé, Moïse, les patriarches, etc. Le présent qui a commencé avec Jésus, parce qu'on dit que Jésus a inauguré les derniers temps. Et le futur, ce qui est encore à venir, le jugement dernier, la vie éternelle, l'apocalypse. Donc ça, ça vous donne la structure générale de la Bible. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 principales parties dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament et il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Enfin... ça, c'est dans les Bibles chrétiennes. L'Ancien Testament, c'est avant Jésus, et le Nouveau Testament, c'est depuis Jésus. Et je dis que c'est dans les Bibles chrétiennes parce que dans les Bibles juives, les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, eux, ne reconnaissent pas non plus le Nouveau Testament. Donc, ils attendent encore la venue d'un Messie. Pour eux, la Bible, c'est uniquement l'Ancien Testament. Mais ici, vous reconnaissez quand même qu'il y a un mot-clé, c'est le mot de « testament ». En latin, Testamentum, qui traduit en grec diatheke, qui veut dire alliance. C'est la manière dont Dieu a fait alliance avec l'humanité. Et ça, c'est la grande histoire d'amour que la Bible raconte. Comment est-ce que ça s'est mal passé au début et comment est-ce qu'ensuite Dieu a essayé de recoller les morceaux. Et donc, il a fait des alliances. Alors, ces alliances dans la Bible, à chaque fois, prennent une forme particulière. Ça prend un aspect de pacte de sang. Parce que c'est lié à la religion et donc dans la religion, une manière de traiter une alliance, une manière de traiter de signer un traité, c'est de faire un sacrifice de sang et qui prend des éléments formels, c'est-à-dire qu'à chaque fois pour faire une alliance, il y a un sacrifice, il y a un signe que l'alliance a été accomplie et puis il y a une promesse de la part de Dieu, une promesse de la part des hommes. Et donc vous avez un récit d'alliances successives. Par exemple, Noé, c'est la première alliance, bah vous avez un signe. L'arc-en-ciel, vous avez un sacrifice, c'est Noé qui sacrifie des animaux en sortant de l'arche. Vous avez une promesse de Dieu, ne plus faire de déluge, et un engagement de la part de l'homme, ne pas manger de sang. Première alliance, et puis ensuite vous avez une deuxième alliance qui la reprend la complète Abraham, puis ensuite une troisième alliance qui la reprend la complète alliance mosaïque avec Moïse, puis avec David. Et puis enfin, c'est Jésus qui arrive et qui l'accomplit, c'est la nouvelle alliance, parce qu'à chaque fois il fallait la reprendre et la compléter. Maintenant, imaginez, vous avez le droit à une date pour retenir autour de laquelle tout va tourner dans l'histoire sainte. Alors, je suppose que tout le monde va me dire l'an 0 parce que Jésus est né en l'an 0. Bon, pas de chance, l'an 0 n'existe pas. Alors, on dira l'an 1, pas de chance, Jésus est né en moins 6, enfin, on pense. Et puis, pas de chance, c'est pas la date à laquelle je pense. Alors oui, Jésus est la clé de lecture. Mais si jamais vous aviez une date en dehors de Jésus hyper importante pour comprendre, quasiment toute l'histoire sainte, cette date, c'est 586 avant Jésus-Christ. En 586 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui est arrivé à Jérusalem, qui a détruit et Jérusalem et le temple, et qui a emmené en captivité, en exil, tout le peuple juif. Tout le peuple juif, en tout cas, toutes les élites juives ont été déportées. Et ça, ça crée un traumatisme, mais le traumatisme du peuple juif, c'est ça. Et je vous dis que moins 586, c'est la grande date, parce qu'en fait, je vous ai dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien Testament, c'était les alliances avec Noé, Abraham, Moïse, David. Le jour où Jérusalem est tombée, les Juifs se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que Dieu n'était plus là pour nous protéger. Et en fait, c'est là où ils se sont rendus compte que à force de faire n'importe quoi dans leur manière d'obéir à Dieu, Dieu l'avait retiré leur aide et que c'est comme si à cause des hommes, ce premier testament ne marchait plus. Et donc, il fallait en faire un nouveau. Donc, ce peuple va partir à Babylone, il va réfléchir, il va demander pardon, il va y avoir des prophètes qui vont dire « Courage les enfants, je ne vous abandonne pas, on va refaire une nouvelle alliance. » Ils reviennent ensuite à Jérusalem, ils reconstruisent un temple de Jérusalem, ils attendent un Messie qui fera cette nouvelle alliance. Jésus arrive et ce sera le Nouveau Testament. Vous retenez cette date, moins 586. Eh bien voilà, je pense que ça nous fera une bonne introduction cette fois-ci pour maintenant plonger dans les évangiles et écouter le début de l'évangile selon saint Luc. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'était passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Dans le passage de l'Évangile que vous venez d'entendre, qui est son prologue, saint Luc indique clairement son intention. Il écrit pour un certain Théophile. Alors ici, le mot de Théophile veut dire « qui aime Dieu », Théo, Dieu, Philo, qui aime. Donc derrière Théophile, il y a vous, il y a moi, il y a le lecteur lambda. Donc il écrit pour un lecteur de bonne volonté et voilà ce qu'il dit dans les premiers versets. « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous », vous notez ici le terme de « composer », ça veut dire que vous n'êtes pas dans un récit journalistique, mais vous êtes dans une reformulation de ce qui a été vécu, une composition. « Il m'a paru, continue saint Paul, il m'a paru bon à moi aussi, après avoir tout suivi avec soin depuis le début, de t'écrire d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Ça, ça veut dire que Luc, il a un but précis quand il écrit son évangile. Il écrit pour que ce Théophile comprenne non seulement ce qui s'est passé autour de la vie de Jésus, mais pourquoi ces événements dont il va parler sont dignes de foi et de considération. Autrement dit, pourquoi ils sont crédibles. Alors maintenant, prenons saint Luc au mot. Quelle est la réalité, quelle est la fiabilité historique de ses écrits? Et là, la première chose à dire, c'est quand même qu'il y a dans l'évangile selon saint Luc une quantité incroyable de détails historiques. Il parle des lieux, il mentionne des règnes d'empereurs, il mentionne des dirigeants locaux. Pour vous montrer à quel point il prend au sérieux la précision de son travail, par exemple, il parle du recensement de l'empereur César Auguste dans le chapitre 2 de saint Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant qu'on recense toute la terre. De même, pour le ministère de Jean le Baptiste, il indique la 15e année du règne de Tibère César, pendant que Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Donc ça, c'est des références qui vous donnent un cadre historique très précis. Vous le trouvez dans les évangiles, vous le trouvez aussi dans les actes des apôtres, où par exemple, il parle d'événements importants comme la famine prédite par le prophète Agabus et qui de fait a eu lieu sous le règne de l'empereur Auguste. Alors on pourrait continuer, hein. Il parle de Ponce Pilate, il parle d'Hérode, il parle de Bérénice, il parle de Sergius, il parle de Drusilla, il parle de Gallio, d'Annas, Félix, Caïaphas, Festus, Ananias, du roi Hérode Agrippa, de Gamaliel, etc., etc., etc. Ce qui fait que en fait, il y a plus d'une centaine de mentions de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous multipliez les références à l'histoire mondiale et plus vous pouvez potentiellement prêter le flanc aux critiques. Eh ben, de manière étonnante, à chaque fois qu'on a fait une découverte archéologique, on a donné raison à l'évangile selon saint Luc. Tout n'a pas été prouvé, parce qu'il y a plein de choses qui ont été perdues, mais quand même, là où on pensait que saint Paul avait tort et qu'il utilisait les mauvais mots, les mauvais noms, les mauvais titres de personnes, eh ben, on a fait découverte qu'ils lui ont donné raison. Par exemple, dans les titres de gloire de saint Luc, c'est le fait qu'il arrive à utiliser des titres exacts pour parler des personnes. Par exemple, acte 13, en parlant de Sergius Paulus, saint Luc utilise le terme exact de antipatos ou proconsul, qui est un titre réservé au gouverneur des provinces sénatoriales sous l'Empire romain. Ça vous montre la précision et la connaissance de Luc. Ou encore, acte 16, quand il parle du mot archonte pour désigner les dirigeants de la ville. Et donc là, ça montre encore qu'il utilise vraiment le bon terme. Quand il parle d'Hérode Antipas comme tétrarque, quand il parle des polytarques de Thessalonique. Bref, dans tout l'usage des titres qu'il fait, maintenant, saint Luc commence à devenir une des références premières pour qu'on comprenne de qui il s'agit. Ou encore, autre exemple, dans Luc 2, quand il parle du recensement. Le recensement ordonné par César Auguste et qui nécessite que chacun retourne à son lieu d'origine. Donc ça, au début, on pensait que c'était totalement irréaliste parce qu'un tel mouvement de population aurait forcément perturbé l'économie. Donc on avait du mal à croire à un tel recensement où on oblige les gens à retourner chez eux. Sauf que, on a retrouvé une ordonnance du préfet d'Égypte, Vibius Maximus, qui date de 104 après Jésus-Christ. Et on montre qu'il y avait des recensements avec des personnes qui devaient retourner dans leur région d'origine. Donc, Saint-Luc, encore une fois, a prouvé avant que l'on fasse la découverte archéologique qu'il existait des pratiques de recensement qui étaient très intrusives parce qu'elles obligeaient les gens à retourner chez eux. Ou encore, si jamais vous regardez, il y a 32 pays mentionnés, 54 villes et 9 îles. Dans toutes ces mentions-là, il n'y a aucune erreur. Donc, il y a vraiment un souci d'exactitude historique avéré chez Saint-Luc. Et je vous ai pas parlé encore de toutes les découvertes archéologiques sur les miracles de Jésus, la piscine de Bethesda, sur la ville de Capharnaüm, sur la ville de Nazareth, etc. Parce que ça, en fait, c'est des détails archéologiques qui confirment l'ensemble des évangiles. Et que là, mon point était uniquement sur Saint-Paul. Mais quand Saint-Luc vous dit au début de son évangile... Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il m'a paru bon, après m'être informé exactement de tout, il m'a paru bon de t'offrir un récit suivi, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements. Là, vraiment, c'est à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que non seulement les évangiles dans leur ensemble ont été confirmés par les découvertes archéologiques, mais en plus, il y a dans Saint-Luc un souci du détail qui vraiment est propre à Saint-Luc. Et ça, ça nous invite à considérer avec beaucoup de sérieux, en fait, les récits évangéliques et leur portée historique. Alors après, on croit ou on croit pas, ça c'est le mystère de la foi et de la résurrection, mais enlever la résurrection, qui est vraiment le domaine de la foi, que vous pourrez jamais prouver, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'argument historique pour ça non plus, mais là, quand même, vous avez, avec les évangiles, des documents étonnants d'honnêteté historique. Et ça, c'est pas tout le temps que ça se rend compte, donc ça mérite d'être dit. Et voilà, c'est la fin de cette chronique spirituelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. J'étais le frère Paul Adrien, et nous nous retrouvons pour la semaine prochaine.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.